Louis-Marie, qu'avez-vous retenu pour nous dans les nouveautés ciné de la semaine?
Victor Hugo, la Palestine et du tennis.
Ah, c'est un sujet bien éclectique, hein, les uns des autres. Alors, vous qui aimez bien faire un petit peu de mystère avant de parler des films que vous avez choisis, ce que je vous propose, c'est de commencer par Victor Hugo. Voilà, c'est le premier de votre liste. Comment il arrive dans les salles de cinéma, notre cher Victor?
Eh bien, il arrive dans Victor comme tout le monde. Ce film de Pascal Bonitzer met en scène Fabrice Luchini dans le rôle de Robert Zucchini, un comédien célèbre qui récite Victor Hugo sur scène avec une ferveur quasi religieuse. Mais cette admiration sert surtout de refuge. Zucchini se cache derrière la grandeur de l'écrivain pour éviter d'affronter sa propre vie, notamment sa relation avec Lisbeth, sa fille, qu'il n'a pas vue grandir. Le film, écrit par Sophie Filière avant sa mort en 2023, est inspiré d'une histoire de Thierry Consigny et lié au spectacle Fabrice Luchini lit Victor. Il explore avec légèreté et précision des thèmes comme la filiation, l'admiration pour le génie masculin et la difficulté d'aimer. L'écriture subtile de Filière et la mise en scène élégante de Bonitzer permet au film d'éviter le mélodrame et les clichés sur les conflits de génération tout en privilégiant un cinéma de la parole. Fabrice Luchini et Robert Zucchini, un homme brillant sur scène mais fragile et absent dans la vie quotidienne. À travers des confrontations, notamment entre Zucchini et trois jeunes femmes qui questionnent l'admiration inconditionnelle pour Hugo, le film ouvre un débat sur la place de l'artiste et de l'homme. Sans trancher, Victor, comme tout le monde, pose une question centrale. À force d'admirer, finit-on par ne plus savoir aimer ?
Vous évoquiez la Palestine en début de chronique. Qu'en est-il, Louis-Marie ?
Eh bien, c'est la réalisatrice et actrice Cherienne Dabis qui, avec Ce qu'il reste de nous, son troisième long métrage, propose une grande fresque retraçant le destin d'une famille palestinienne sur trois générations. L'histoire commence en 1948 lorsque Sharif, producteur d'oranges à Jaffa, refuse de quitter sa terre malgré l'exode forcé des Palestiniens. Capturé puis profondément marqué par les événements, il revient brisé auprès de sa famille. Des décennies plus tard, son fils Salim vit en Jordanie avec sa femme Hanan et leur fils Nour. Après une humiliation subie face à des soldats israéliens, Nour perd peu à peu son admiration pour son père et, devenu adolescent, rejoint la résistance. Blessé lors d'une manifestation, il est transporté à l'hôpital. Alors que les médecins tentent de sauver leur fils, Salim et Hanan trouvent une lueur d'espoir qui pourrait donner un sens aux souffrances accumulées par leur famille et leur peuple.
Le film fait donc s'entrechoquer la petite histoire, celle d'une famille, et la grande histoire, celle de la Palestine.
À travers ce récit intime, Ce qu'il reste de nous évoque les événements majeurs de l'histoire palestinienne. La création d'Israël, les expulsions, l'occupation et les révoltes. Raconté sous forme de longs flashbacks par Hanan, cette mère bouleversante, le métrage explore la transmission du traumatisme lié à l'exil et aux humiliations, tout en suivant le désir de retour à la terre natale. Adoptant un point de vue palestinien assumé, le film se veut moins un outil de propagande qu'un témoignage visant à faire entendre une histoire longtemps peu racontée. En mêlant récit familial, émotion et contexte historique, Cherienne Dabis cherche avant tout à remettre l'humain au centre du conflit et à montrer l'attachement profond d'une famille à sa terre perdue. La réalisatrice ne cède pas à la haine, elle propose un témoignage humain et poétique qui vise à redonner profondeur et humanité au récit palestinien. Même si son regard est engagé, l'œuvre, portée par une mise en scène sensible, se distingue par sa puissance émotionnelle et par son ambition de raconter l'histoire palestinienne avec humanité et nuance.
Et maintenant, Louis-Marie, compromis, on fait un peu de sport. Alors, c'est un peu tôt pour faire du sport, mais...
Oui, Mais faisons-en tout de suite.
Allez.
Il Maestro, le quatrième film d'Andrea Di Stefano, décrit la rencontre décisive entre Raoul Gatti, un professeur de tennis au passé sombre, et Felice, un garçon de 13 ans soumis à la pression de son père qui rêve de le voir devenir un grand joueur. Durant un été dans l'Italie des années 1980, le prof et l'élève partent ensemble sur la route pour que Felice puisse participer à des tournois et gagner ainsi en maturité. Ils vont apprendre peu à peu à se connaître et à se faire confiance. Andrea Di Stefano s'est inspiré en partie de sa propre jeunesse et de la relation qu'il entretenait avec son mentor de tennis, son père en l'occurrence, tout en y ajoutant éléments romanesques et humour. Le film ne se concentre pas vraiment sur le sport, les scènes de tennis sont rares et l'entraîneur Raoul apparaît davantage comme un personnage charismatique et imprévisible que comme un véritable coach. D'abord déstabilisé par la liberté et l'excentricité de Raoul, Felice découvre progressivement un monde plus ouvert et comprend les failles cachées de son entraîneur. Au fil du récit, leur relation devient surtout une leçon de vie fondée sur la liberté, le plaisir et l'acceptation de l'échec. Les deux personnages s'entraident mutuellement. Felice apprend à se détacher de la pression, tandis que Raoul trouve un soutien face à ses propres fragilités. Le film commence comme une comédie à l'italienne, puis évolue vers un récit d'apprentissage explorant l'amitié, les imperfections humaines et la pression des normes de masculinité de l'époque. Porté par l'alchimie entre Pier Francesco Favino, Raoul et Tiziano Menichelli, Felice, Il Maestro alterne complicité et tension entre les deux protagonistes pour proposer une réflexion sur la liberté et la possibilité de vivre au-delà de la seule obsession de la performance.
Serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica udì.